Bon Teddy, on est dans la course à l'Europe, ça y est, ce soir il y a le match entre Lille et Lyon, parce qu'il n'y a pas eu de match hier en raison du 5 mai. Alors ce soir on est pour qui? Pour l'OL ou pour le LOSC?
On est pour l'OL. On espère pas, parce qu'on est quand même sûr de nos, enfin, on se focalise plus sur nous, mais on espère que Lyon peut accrocher Lille, histoire de pouvoir regarder peu devant nous.
Moi, c'est ça qu'on sent dans ton discours, c'est qu'on veut regarder au-dessus, pas de peur de Lyon qui, certes, est en train de bien monter au classement. On veut vraiment regarder la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions.
C'est plus ou moins, enfin, c'est pas une question de Lyon ou notre équipe, c'est plutôt qu'on essaie de se focaliser sur nous, parce qu'on sait que peu d'équipes ont, entre guillemets, ce que nous avons en cette fin de saison. C'est qu'on sait que si on gagne ce week-end, on se met dans une bonne situation. Donc on essaie de pas regarder à droite, à gauche. On se focalise à 100% sur nous. Et donc voilà.
C'est l'objectif que vous êtes fixé là, le top 4. Aujourd'hui, la cinquième place, elle est bien partie, même s'il faudra faire le boulot. Il y avait Jérémy Boga qui avait dit, notamment après Lorient, nous on regarde devant. C'est dans le vestiaire, vous en parlez, il faut aller essayer d'accrocher.
Je pense qu'on s'était mis d'accord depuis le début de saison que l'objectif c'était le top 6. On s'était tous mis d'accord.
Hey, le micro, il est tombé.
Joueur, tout ça. Et c'est sûr que là, déjà, on sait qu'en gagnant plus ou moins vendredi, on peut sécuriser quelque chose, même s'il n'y a rien de sûr dans le football, tant que mathématiquement, c'est pas fait. Et on verra après pour se faire un petit bonus pour Paris et Lille. Mais en tout cas, on sait que l'objectif, c'est le top 6, on s'est tous mis d'accord et qu'après, on pouvait se faire rêver, on se ferait rêver.
Je dirais qu'il a fait ça toute sa vie, il se fait pas perturber par le micro.
C'est ça.
Et première interview, ça ressemble à un bizutage, le micro qui tient pas. C'est fort.
C'est bon.
On touche plus à rien. Parce que toi, tu regardes qui ce soir, Lille, Lyon, tu es pour qui? Tu préfères que qui l'emporte?
Non, mais c'est sûr que nous, les objectifs de l'OGC Nice avaient été marqués de suite cette saison. On savait que cette équipe était capable d'aller chercher une place européenne. Et c'est vrai que tu te dis que si Lyon accroche Lille et que voilà, ça nous donne l'espoir d'aller chercher encore plus haut que ce qu'on peut obtenir. Donc, bien évidemment, quand t'es compétiteur, et je le répète sans cesse, tu vois ce qui se passe devant, ce qui se passe derrière, c'est pas trop le souci. Et après, je le rejoins tout à fait. J'ai toujours dit que le plus important, c'était de se regarder à soi. Parce que pour moi, l'ennemi, si tu veux, de notre équipe, c'est nous. C'est-à-dire, si nous, on arrive à faire ce qu'il faut, eh ben, on aura la récompense au bout. Et il faut vraiment se concentrer sur eux et qu'ils continuent à avoir ces résultats-là pour nous faire rêver jusqu'à la fin de saison.
Ouais, le gym qui peut donc verrouiller l'Europe dès vendredi face au Havre. Comment le groupe s'y est préparé, là, ces derniers jours? C'était quoi le programme, là, depuis la fin du match contre Strasbourg?
On a eu un petit peu de repos pour pouvoir un peu souffler, pouvoir se mettre à 100% dans la course qui a jusqu'à la fin de saison, parce que c'est quand même une course où on va jouer trois matchs un peu rapprochés. Et après, là, à partir d'aujourd'hui, on a repris l'entraînement 100%. Tout le groupe est focus à 100% et très, très sensible à la rencontre de vendredi. Donc là, on se met dans un état d'esprit de compétiteur et à 100%.
Ouais, on le sent, cette atmosphère de fin de saison, les moments que ça compte, il y a encore plus de tête de détermination à l'entraînement.
Exactement, ça, c'est que là, les points comptent limite double. Et là, franchement, ce qui est bien, c'est qu'en plus, pour une fois, on sait que la fin de saison, elle peut être très belle. Et en plus, c'est nous qui l'avons entre nos mains. Enfin, ça dépend pas des autres, ça dépend surtout de nous. Donc là, l'équipe, elle est consciente de ça, le groupe, il est conscient et on est confiant.
D'ailleurs, vous pouvez aller encourager les Aiglons et Teddy Boulendi contre le Havre vendredi. La Populaire Sud a fait un appel à mobilisation, mais vous aussi, vous pouvez gagner vos deux places en nous appelant sur France Bleu Azur 04 93 82 03 04. Et en plus, ce match contre le Havre, c'est contre un entraîneur qu'on connaît bien, Luc Elsner, qui est niçois. Est-ce que ça rentre un peu en ligne de compte? Peut-être pas le fait qu'il soit niçois, mais en tout cas, il nous connaît. Le Havre a battu l'OGC Nice en début de saison. Comment est-ce que, du coup, on aborde cette rencontre quand on sait que c'est une équipe contre laquelle on a chuté en premier, en plus, dans le championnat?
Déjà, on sait qu'un club qui joue le maintien, c'est pas facile aussi à jouer. Déjà, ça y joue. Aussi, le fait qu'il y ait eu, entre guillemets, la défaite au match aller. Mais après, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on aura aussi l'esprit revanchard. Et je sais que, dans tous les cas, peu importe l'équipe dans laquelle on peut jouer, je sens que le groupe, il est sensible au fait qu'on a quelque chose vraiment à jouer. On a vraiment une carte à jouer en cette fin de saison. Donc, franchement, peu importe l'adversaire, je pense que ça aurait été la même préparation, je pense.
Benjamin l'a dit, Patrice, le gym avait chuté au Havre. Face à cette belle équipe normande, entraînée par un Luc Elsner qui, malgré ce statut de promu, n'a pas renoncé à ses idées de jeu. Elle te plaît, cette équipe du Havre? Il faut surtout pas la prendre à la légère.
Oui, non, c'est sûr qu'il faut la jouer. Et puis, c'est pas que l'équipe du Havre, toutes les équipes, faut pas les prendre à la légère. Un match de Ligue 1 aujourd'hui est très difficile à gagner. tout le monde est préparé pour rivaliser avec tout le monde. Après, c'est les qualités qui font la différence. Mais effectivement, cette équipe du Havre au match aller m'avait surprise. Et j'ai vu quelques matchs cette équipe. Tu sens une équipe qui a une vraie volonté de jeu, qui a une vraie identité de jeu et qui va vers l'avant, qui va mettre la pression à l'adversaire. Oui, pour moi c'est un match dangereux, on le sait, comme le dit Teddy. Le gros avantage que nous avons sur cette rencontre-là, c'est que déjà on a un capital confiance qui est assez bon en ce moment, on a une vraie dynamique, et en plus, on a notre destin entre les mains. Et quand t'es compétiteur et que tu sais que c'est par tes résultats à toi que tu vas aller pouvoir chercher l'objectif, t'es encore plus motivé. Et moi j'attends ce week-end un match, un gros match. Et on le disait, t'as raison de le souligner. S'il y a vraiment un match où il faut se déplacer à l'Allianz Riviera, c'est celui-ci.
Ouais, parce que Paris Saint-Germain est déjà complet quasiment.
Oui, Paris Saint-Germain, c'est des matchs, on dit des matchs spectacles, mais si tu veux, c'est des vrais matchs charnières pour la suite du championnat et pour la fin du championnat, c'est ce match-là.
Alors en plus, tu parles de spectacle, mais pour le coup, Le Havre, c'est une équipe qui propose du spectacle. Quand on regarde Le Havre, on se régale, et Serge a gagné ses deux places pour ce match. Bonsoir Serge.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Serge.
Bon alors, déjà, félicitations pour les deux places. Quel est ton regard sur la saison globalement du Gym et sur le prochain match qui arrive contre Le Havre?
Bah, la saison, le gros dommage, c'est ce creux qu'ils ont eu pendant quelques matchs, pendant une dizaine de matchs. Sinon, franchement, cette année, ils pouvaient être troisième sans problème.
Bon, c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine.
J'ai vu certains matchs où vraiment on a perdu des points qu'on ne devait jamais perdre. C'est dingue de voir certains matchs qui ont été faits. C'est dommage parce qu'on avait une belle saison là.
Bon, mais c'est pas encore fini, c'est
pas fini.
Le Gym peut encore aller accrocher cette troisième place. C'est pas même la troisième place, parce qu'on a vu que Brest avait perdu des points. Lille, ça dépendra aussi de ce qu'ils font avec ce dernier match en ligne de mire. Vous l'avez en tête cette dernière journée, Teddy, ce dernier match à Lille qui peut ressembler à une finale.
C'est pour ça que on a beaucoup de matchs à jouer, de matchs à enjeu, et surtout Lille. Et en plus, Lille qui est une bonne équipe à domicile. Et comme toute équipe et comme tout compétiteur, on se dit que si en plus on arrive à avoir deux finales sur les trois derniers matchs, on sera prêt et on met tout de notre côté pour arriver le mieux armé possible dans ce type de rencontre-là.
Et la mauvaise passe dont parlait Serge, est-ce que tu as l'impression que le match de Nantes a servi un petit peu d'électrochoc? Est-ce que tu sens que depuis ce match-là, cette défaite, il y a une nouvelle dynamique? C'est depuis ce moment-là que le club,
bien sûr, s'est recentré. Je pense que déjà, l'élément déclencheur, c'est d'avoir des résultats. Donc le fait d'avoir eu ce résultat-là, ça a fait que le groupe il a été conscient de qu'il pouvait faire quelque chose. Mais surtout que en fait dans une saison, enfin la saison, une saison c'est long, c'est très très long, il y a ces semaines d'embûches, mais c'est surtout la réaction derrière à avoir qu'il faut souligner. Après je peux comprendre que les supporters qui ont été un petit peu déçus de ce passage à vide là, mais voilà, la réaction elle est là, et le fait est que l'objectif qu'il y avait au début de saison c'était le top 6, on est toujours dans cet objectif là, et surtout qu'on a comme tu as pu le dire, on a de grandes choses devant nous, et on sait que de par nos résultats qu'on aura en fin de saison, on peut penser à tout, on peut penser à la 5e, à la 4e, à ce qu'on veut, mais en tout cas on est dans les objectifs qu'on s'était fixés au début de saison.
Et pour rêver, il faut donc gagner face au Havre. Tu le disais, Ben, il y a eu l'appel de la POP hier sur les réseaux sociaux. Ouais. Mobilisons-nous, allons chercher cette Europe tous ensemble, c'est le bon moment. Toi, si tu avais un mot pour les supporters, parce qu'on sait que effectivement, comme le disait Patou, contre Paris, ils seront là. Pour les motiver à venir contre le Havre, t'as envie de leur dire quoi aux supporters?
Comme le disait Patou, le plus important c'est ce match-là de vendredi contre le Havre, parce qu'on a besoin de ce 12e homme-là. Parce que c'est facile, enfin entre guillemets, la motivation, même pour les supporters et pour les joueurs contre Paris ou Lille, elle sera là et elle l'est, même pour tout compétiteur, elle est dans tous les matchs. Mais surtout pour les supporters, on avait besoin de ce support-là en plus, qui fait que dans certains moments du match, ils vont nous aider et ils l'ont très bien fait par moment. Et j'espère qu'ils sont conscients que vendredi c'est vraiment vraiment un match très 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 important, voire le plus important de cette fin de saison.
Message entendu pour les supporters, venez nombreux encourager le Gym. Et toute la semaine, France Bleu Azur vous fait gagner deux places pour ce match comme Serge. Serge, très bonne soirée à vous.
Merci, en tout cas merci pour les places, et puis donc on va aller au Havre, voir le Havre, et puis on va essayer de gagner ce match, parce qu'effectivement comme vous le disiez, c'est un match très important, mon avis.
Et tous à Lille pour la dernière journée, pour encourager les Aiglons. Deuxième partie de 100% Aiglons dans quelques instants. On va se recentrer sur le parcours de Teddy, sa saison, son rôle dans le vestiaire et son regard notamment de Martin Boulka, notre super gardien de but. C'est dans quelques instants sur France Bleu Azur.
100% Aiglons sur France Bleu Azur.
Deuxième partie de 100% Aiglon, toujours avec Patrice Alberganti, notre consultant, Maxime Baquet, notre journaliste, et notre super invité Teddy Boulendi, gardien de l'OGC Nice. Teddy, tu as un rôle un peu particulier dans le vestiaire en tant que numéro 3. Justement, c'est quoi un numéro 3 au quotidien? C'est accompagner, c'est soutenir, c'est peut-être un rôle de grand frère? Comment ça s'articule tout ça?
Alors déjà, le rôle du numéro 3, déjà, il est déjà en retrait. Déjà en retrait de la scène, mais il est surtout très important dans la semaine de travail, parce que c'est quand on est souvent numéro 3 ou comme cadre, en fait on a une personnalité et qu'on a une parole qui compte, et donc c'est fait que toute la semaine on se doit d'être là, de motiver les joueurs, de les rassurer, de faire passer aussi des messages, de par mon rôle de cadre et aussi jeune à la fois, de faire le trait d'union entre les jeunes, leur motivation, ceux qui montent avec nous ou les jeunes qu'on a dans le groupe, parce qu'on a beaucoup de jeunes dans le groupe. Donc c'est un rôle en retrait, mais il est très important, je pense. Il est très important, voire primordial dans un groupe, et on sait que la force d'un groupe c'est primordial, surtout pour faire des résultats dans une saison.
Patrice, toi qui étais joueur, c'était Cyril Aloisio, me semble-t-il, qui était troisième gardien. Ouais. Comment est-ce qu'il avait ce rôle, et en quoi il est comparable peut-être avec Teddy, même s'il y a 20 ans d'écart, entre 25 ans quasiment, entre ces deux périodes? Est-ce que tu peux apporter ton expérience là-dessus?
Ouais, c'était ça. C'était un gardien de but qui était là, qui travaillait à l'entraînement énormément, parce que quand tu es troisième gardien, tu pousses les autres gardiens, tu vois, tu dois pas être dans le négatif, tu dois être dans le positif tout le temps, et tu dois tout le temps apporter quelque chose de supplémentaire de par tes séances d'entraînement, de montrer aux autres gardiens que tu es là, que tu fais le taf, tu rechignes pas et tu vas bosser. Et nous à l'époque, Cyril, ben il s'entraînait toute la semaine avec le groupe, et le week-end souvent il allait jouer avec la réserve, tu vois. Donc il partait pas. Et puis moi à l'époque, il y avait même que seul gardien, il y avait trois remplaçants, donc t'as qu'à voir. Donc c'était encore autre chose, mais c'est vrai que voilà, c'était des joueurs qui étaient très importants dans le groupe, très importants dans la dynamique, très importants à l'entraînement. Voilà, c'était un membre à part entière de l'équipe. C'était pas tu dis pas le troisième gardien, on le calcule pas, non. Troisième gardien, il fait partie du groupe, et puis c'est tout, quoi.
Et est-ce que tu t'épanouis dans ce rôle dont tu nous parles, ou est-ce qu'il y a arrivé à la fin de semaine une petite frustration de se dire je vais probablement pas jouer encore ce week-end? Comment ça se passe dans ta tête?
Dans ma tête, bon, déjà, ça fait pas mal de temps que j'ai cette fonction-là. Je pense que ça fait presque, je pense que c'est la quatrième saison que je remplis cette fonction-là. Donc non, franchement, dès que moi je suis sur un terrain de football, je me sens heureux, je me sens libre. Donc je fais ma passion. Donc moi, franchement, c'est magnifique pour moi. Mais c'est sûr que d'un tout compétiteur, surtout personne comme moi qui est compétitrice et ambitieuse, c'est sûr qu'arriver le week-end, il y a une petite frustration, mais je la montre pas à mes coéquipiers, ou je la fais pas ressentir, mais elle est intérieure. Pour un footballeur, c'est sûr qu'il aimerait toujours plus jouer et tout ça, mais par contre faire son métier, de sa passion son métier, c'est y a rien de mieux déjà.
Tu es souvent dans le groupe?
Très souvent.
Quand les deux numéros, les deux premiers sont là, Bulka et Dupé en l'occurrence, souvent tu vas t'asseoir en tribune, mais du coup ton rôle, il est dans le vestiaire aussi. C'est là où tu as ces mots, ces messages à faire passer.
C'est ça. Ouais, déjà, c'est que, comme je disais, pas tout, le troisième, il partait, par exemple, son troisième, Cyril, partait en réserve jouer les matchs. Moi, je suis quand même là le week-end, fais tous les déplacements, que ce soit à domicile, extérieur. Donc, je sais que ma parole, elle compte, et je pense que la parole, elle est entendue dans le vestiaire. Donc, c'est ça, c'est que avant les matchs, il y a des petits mots, des encouragements à faire, ou des petites précisions, ou ce qu'on voit de l'adversaire, plein de petites choses comme ça qui font que, non, je suis, même si je pars en tribune, je sais que mon importance, elle est grande.
Elle est réelle. Sûr,
ouais. Mais en plus, ce qui est intéressant, ce que tu disais, c'est que tu as à la fois ce rôle de cadre, puisque tu parles, etc., et aussi de peut-être grand frère, parce que tu es un jeune gardien. Donc, pour les jeunes qui montent petit à petit en pro, tu es capable de faire ce lien, entre guillemets, entre le monde des pros qui peut parfois faire peur et ces jeunes qui découvrent tout ça. C'est ça aussi l'intérêt de ton rôle, en fait.
Surtout qu'en plus, moi, je suis passé par la case d'information comme eux. Donc, en fait, je connais plus ou moins, entre guillemets, l'étape qui a passé entre les deux. Donc, je sais que je peux leur apporter quelque chose, et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien, parce qu'on a un très bon groupe, et que les jeunes ils sont à l'écoute, et que les grands, enfin du coup les cadres aussi sont très très bons. Donc franchement, dans ce rôle-là, ça va, pour l'instant, ça se passe très bien.
Et surtout qu'il y a un numéro 1 qui, effectivement, prend beaucoup de place. Ouais. Nommé, on parlait de Lucas Elsner tout à l'heure, qui est nommé parmi les 5 meilleurs entraîneurs de la saison. On a la chance d'avoir Marcin Bulka, ouais, qui est, lui, parmi les 5 meilleurs gardiens. Comment ça se passe au quotidien avec lui, les séances d'entraînement? Est-ce que tu es impressionné aussi par ce qu'il dégage, voilà, comment ça se passe au quotidien avec Marcin?
Ça se passe très bien, parce que même la personne elle-même, elle est vraiment top. En plus, pour l'avoir aussi côtoyé quand il était, entre guillemets, en situation de numéro 2, c'est que la mentalité qu'il a, elle est top. Comme vous avez pu le constater, je pense, les supporters, tout ça, c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui a la culture du travail et qui a une bonne personnalité. Et franchement, à l'entraînement toute la semaine, c'est un plaisir, parce que du coup, on s'apporte mutuellement dans le travail, tout ça. Donc, franchement, tout ce qu'il a, entre guillemets, tout ce qui lui arrive en ce moment, entre guillemets, c'est mérité, parce que c'est un très grand bosseur et que c'est pour ça que c'est un très grand gardien, aussi par la taille.
Je te demande pas si c'est le meilleur gardien de Ligue 1.
C'est le meilleur gardien de Ligue 1. Si on est meilleure défense de Ligue 1, c'est que c'est le meilleur gardien de Ligue 1.
C'est vrai qu'il nous impressionne, Patrice, la question. Toi, meilleur gardien de Ligue 1, Marcin, pour toi, il n'y a pas de débat?
Il peut y prétendre sans aucun problème. Hein. Franchement, il a fait des matchs très impressionnants. Et puis moi, ce qu'il dégage, ça me plaît, tu vois. Quand t'es joueur sur le terrain, que t'as une personnalité comme lui derrière, le dernier rempart, il rassure. Tu vois, c'est un mec qui rassure, c'est un mec qui prend de la place, même s'il n'a pas tant d'arrêts à faire sur certains matchs, il est là, tu le sens. Et quand tu es défenseur, ben franchement, quand tu as des gardiens comme ça, c'est génial.
On parle de confrérie des gardiens. Est-ce que c'est un mot que tu aurais envie de t'approprier? Il y a vraiment un lien spécial entre gardiens?
Bien sûr. Franchement, moi, depuis le début que j'ai commencé à faire du foot, on sent déjà qu'on a un rôle, enfin, un poste spécial, qui fait qu'on n'est pas, enfin, c'est pas comme les joueurs, on a nos spécifiques aussi de notre côté, on a notre propre entraîneur de gardien. Et oui, pour moi, je garde le terme confrérie, parce que les gardiens, c'est très proche, c'est un groupe réduit. Et en plus, ça se passe très bien cette saison, c'est qu'on a enfin, même à Nice, à chaque fois, j'ai toujours eu de très 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 bons coéquipiers en tant que gardien de but. Donc franchement, top. Avec Marcin, avec Maxime, tout se passe très bien. Et on s'entend très bien et on progresse, je pense, dans le travail, tous ensemble.
Et tu as connu Walter Benitez, en plus.
Exactement.
Champion des Pays-Bas. Je sais pas si tu as pu suivre
cette
actu.
Si, j'ai pu suivre,
ouais. C'est magnifique, j'imagine, de voir son ancien coéquipier être auréolé comme ça. Et puis une saison exceptionnelle, hein. Il est meilleur gardien des Pays-Bas, de toute façon, ouais.
Mais aussi meilleure défense aussi
des
Pays-Bas. Mais non, Walter aussi, pareil, ça a été top, parce que, en fait, c'est ça qui m'a beaucoup apporté, je pense, aussi dans le calme et dans le truc, c'est que, en fait, c'est deux très très grands bosseurs. Marcin comme Walter, c'est deux très très grands bosseurs, et s'ils sont meilleure défense de leur championnat, c'est aussi que, comme il a dit Patou, par la prestance, c'est peut-être pas que les arrêts, mais par la prestance, ils apportent énormément, voire ils déjouent quelques occasions de par leur prestance. Et c'est deux très très bons gardiens, et je pense que c'est bien de les avoir vus et de les avoir eus au quotidien avec, c'est que ça nous apporte, et surtout de savoir que le travail, c'est primordial. Tu peux avoir du talent, tu peux avoir ce que tu veux, mais si tu travailles pas, tu n'arrives pas à tes fins.
Est-ce que tu puisais un peu ta force d'eux, c'est-à-dire, parce que vous n'avez pas exactement le même profil avec Walter et Marcin, ils sont un peu plus grands, peut-être un peu moins forts sur les appuis, puisque toi, t'es peut-être un peu plus, tu as sauté peut-être plus haut. Est-ce que tu as des points communs avec eux, et à l'inverse, des choses sur lesquelles tu es différent, mais tu vas te baser pour progresser?
Déjà, c'est sûr que de par la taille, Marcin et moi, on n'a pas la même taille. Après, et moi, plus ou moins, on était à quelques centimètres près, mais c'est surtout ça, voilà, c'est... Je me suis beaucoup le terme de un contre un, de tout ça, je me suis beaucoup rapproché de Marcin, parce que de par la prestance, tout ça, même la l'envie qu'il met dans ses un contre un, donc du coup j'ai un peu tiré de ça. Après Walter, c'était surtout la gestion des matchs, tout ce qui est jouer au pied, tout ça. Franchement, il avait une bonne gestion de ses matchs, tout ça, il savait gérer les grands moments, il a été décisif aussi par moments dans deux matchs très compliqués et tout ça. Donc non, franchement, toujours à l'écoute, même eux souvent à l'écoute de moi, je savais que je pouvais leur apporter aussi quelques petits trucs. Donc franchement, l'ambiance de travail, elle a toujours été top au sein des gardiens de but.
Patrice, je crois qu'il avait une petite question.
Non, mais moi, c'est vrai que le rôle de numéro 3, pour ta progression personnelle, à un moment donné, tu vas pas avoir envie de te dire, allez, j'essaie de passer l'étape suivante, c'est-à-dire de jouer les matchs, et je pense que ça doit te titiller un petit peu dans la tête et dans les mains, quoi.
Bien sûr, c'est sûr que quand on est compétiteur, on a envie de jouer. Surtout que je pense j'ai emmagasiné pas mal de choses, je pense que même si c'est des années où t'es numéro 3, c'est pas de la perte de temps. J'ai quand même gagné quelques trucs, quelques conseils, de la vision de comment gérer une saison européenne, une saison pas européenne. Je pense que ça m'a apporté beaucoup, mais c'est sûr que oui, dans un coin de ma tête, il y a toujours cette petite envie-là d'aller jouer et cette ambition-là.
Bien sûr.
Mais tu sens que tu progresses, même sans avoir ce temps de jeu, tu sens que saison après saison, à travers les différentes expériences, différents entraîneurs des gardiens, en l'occurrence Jarkko Tuomisto, le Finlandais cette année, tu passes des paliers, même sans temps de jeu, tu te sens progresser.
Je pense que techniquement, je passe des paliers dans la gestion de matchs, même je pense que techniquement j'ai progressé tout ça, et c'est surtout aussi mental de toujours être là malgré qu'on ne soit pas en retrait, tout ça, de toujours être là constamment, ne pas s'arrêter, travailler énormément, travailler plus que les autres, et franchement non, c'est ce truc là de
Tu emmagasines de l'expérience au fur et à mesure de tes séances et de tes années.
On est sûr. Pouvoir
là, ouais.
Ouais, mais sur un malentendu, tu peux jouer. Je pense à Mandrea il y a quelques années qui était quatrième gardien. Non, mais c'est vrai, coéquipier en sélection en plus, Anthony Mandrea, qui avait profité de circonstances avec Ospina qui se blesse. Je crois que c'était Pouplein et ensuite Moisacène.
C'est ça.
Donc, bon, tu peux, pourquoi pas. Non, mais c'est vrai, sur un malentendu.
On n'espère pas non plus les blessures de nos coéquipiers. On n'espère pas ça. Mais c'est sûr que pourquoi pas, dans tous les cas, moi, la semaine, je m'entraîne comme si j'allais jouer et je suis conditionné comme si j'allais jouer malgré que je sois en retrait, mais c'est sûr que tout est possible dans la vie, donc on verra bien.
Ah, c'est un poste particulier.
Mais c'est une belle mentalité, c'est la preuve aussi que t'es dit derrière, une mentalité de vainqueur, Maxime.
Effectivement, non, mais c'est vrai que c'est des postes très particuliers. Tu parlais de liens aussi spéciaux entre vous, parce que peut-être qu'il n'y a qu'un gardien qui peut savoir ce que ressent un autre gardien, cette faculté à devoir rester concentré, même quand on est numéro 2 sur le banc. Toi, tu as fait beaucoup de bancs aussi. Se dire, on peut rentrer à tout moment. C'est une préparation mentale, se mettre en condition.
Surtout, c'est différent parce qu'en fait, on se dit qu'à la moindre erreur, c'est soit il y a occasion super dangereuse, soit il y a but. Il n'y a pas place à peu près. Donc en fait, c'est ça, c'est d'être constamment concentré avec des matchs où on va être sollicité énormément, d'autres où on va pas être sollicité, mais le gardien, si il faut qu'il soit présent à n'importe quel moment du match, donc c'est ça qui rend ce poste-là difficile.
C'est un poste décisif.
Tu aurais aimé être gardien, Patrice?
Ouais, franchement, ouais. Je pense que j'avais la mentalité, tu sais, un petit peu le parce qu'on dit souvent que les gardiens ont un petit grain de folie. Je pense que j'avais ce petit grain de folie pour aller me jeter n'importe où, tu vois. Donc,
Alors, pour l'anecdote, moi, j'ai même démarré gardien, mais alors, à 1m71, ça a pas duré longtemps.
Ouais. Tu es très costaud, en plus.
Alors, pour le coup, c'était vraiment parce qu'il fallait quelqu'un au cage et que j'étais le plus timide. On m'a dit, bon, tiens, toi, tu vas y aller en débutant. Ça a pas duré.
On sent quand même que sa passion, c'est la musculation.
Ouais. Ah,
mais en plus, il a fini arrière droit comme un certain Christophe Jallet.
Voilà.
Et comme moi d'ailleurs.
Je crois que je suis meilleur ici. C'est une autre histoire, on n'est pas là pour parler de
ça. On n'est pas là pour parler de ça, messieurs. Troisième partie de 100% Lyon dans un instant. Toujours avec Teddy Boulendi, notre super gardien de l'OGC Nice.
Jusqu'à 19h, 100% sport sur France Bleu Azur. 100% Aiglon.
100% Aiglon.
Benjamin Pierson.
100% sport avec la Caisse d'épargne Côte d'Azur, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
100% Aiglon, troisième partie de notre émission sur France Bleu Azur, toujours avec Patrice Albaganti, notre consultant foot, Maxime Bacquier, notre journaliste, et Teddy Boulendi, notre gardien du gym. Interview qu'on mène ensemble avec l'équipe. Et on parlait tout à l'heure, Teddy, de ton rôle. Concrètement, au-delà du rôle de grand frère que tu peux avoir, tu as des réunions aussi de temps en temps avec le board, le staff. Ça consiste en quoi, ces réunions?
C'est des réunions de cadre où plus ou moins on se donne des objectifs à court terme, d'avoir le regard sur les séances d'entraînement ou sur les objectifs qu'on peut se mettre, tout ça. Mais après, on n'en a pas énormément non plus parce que on sait quand même que plus ou moins le groupe, entre guillemets, vit bien et tourne bien. Mais oui, voilà, quand on a ces réunions-là, c'est surtout des réunions, pas de crise non plus, mais c'est des réunions où, avec des objectifs bien précis et on a les cadres pour pouvoir répondre à ces objectifs-là.
Vous êtes 4 ou 5, c'est ça, donc ça se décide comment? Qui y va? C'était en début de saison? Comment ça s'est fait?
C'est en début de saison que ça se fait, plus ou moins, entre guillemets, ça se fait en début de saison, mais naturellement, il n'y a pas de... Franchement, c'est les leaders naturels du vestiaire et franchement, il n'y a pas de... Non, franchement, tout se passe bien avec ces leaders-là et je pense que si la saison, entre guillemets, elle fonctionne bien maintenant, maintenant, c'est que ces leaders-là, ils ont été bons. Hein.
Ça existait à ton époque aussi, ce genre de réunion avec les joueurs cadres, ouais. Et ça prouve aussi l'importance de Teddy dans ce vestiaire.
Ouais, exactement. C'est des vrais rôles. Attention, il y a des vraies prises de parole, prises de position, des sujets. Moi, je me rappelle à l'époque, c'était Fred Joria et Fred Tatarian qui étaient un petit peu les préposés à ça, tu vois. Donc, voilà, c'était des capitaines et capitaines bis. Et quand on avait nous des choses à dire, on passait par eux. Et quand eux, ils avaient des choses à dire, ils nous posaient des questions et ils allaient voir la direction. Voilà, c'est toujours bien passé. Il n'y a jamais de problème, hein, si tu veux. C'est toujours pas des petites bricoles à régler. Mais c'est très important d'avoir des cadres sur lesquels tu peux compter dans un vestiaire. Et Teddy en fait partie.
Mais tu as toujours senti que tu avais cette forme de leadership, de facilité à aller parler avec les autres, ou c'est quelque chose qui est aussi venu avec le temps, l'expérience?
Non, plus ou moins, déjà dans les catégories jeunes de l'OGC, j'ai toujours été plus ou moins, entre guillemets, capitaine, tout ça, voire un peu leader dans l'âme, mais je pense pas que c'est quelque chose que je suis allé chercher ou que j'ai voulu avoir. C'est quelque chose qui a été inné, je pense. J'ai toujours, je suis un très grand passionné du football, donc j'ai toujours aimé vouloir aider les autres, vouloir pouvoir simplifier les choses. Déjà, je déteste perdre, je pense, comme tout compétiteur, donc du jour, j'ai toujours voulu que tout se passe bien dans le vestiaire. Et je sais aussi, par expérience, je sais surtout que le vestiaire, si tout se passe bien, entre guillemets, la saison, elle fonctionne bien. Donc, je pense qu'il est important d'avoir des leaders et que c'est grâce à ces leaders-là qu'on peut avoir des relais avec, entre guillemets, la direction. Je sais que si 25 joueurs parlent, ça n'a pas la même valeur que si 5 joueurs parlent. Donc, les leaders, c'est important, mais c'est surtout, voilà, les porte-parole du vestiaire. Et je pense que c'est inné. Je pense pas que ce soit quelque chose qui se recherche. Je pense que c'est inné.
T'as porté le brassard de capitaine en préparation, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, ça doit être une fierté aussi.
C'est une fierté,
même si voilà, match amical.
C'est une forme de reconnaissance, surtout aussi, je pense, du travail qui est fourni tout au long de la saison, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc non, franchement, une très grande fierté, surtout de le porter à l'OGC Nice. Et voilà.
Bon, et maintenant la suite. Patrice disait que ça allait sans doute te titiller d'aller chercher un jour un peu de temps de jeu. T'en es où de cette réflexion? Tu as 23 ans, tu es sous contrat jusqu'en 2025. Ce rôle de cadre dans le vestiaire, la confiance d'un club, t'es dans une forme de réflexion ou pour l'instant tu...
Déjà, je sais que, par rapport à la fin de saison qu'on a, qui nous attend, je pense que j'ai pas envie de m'éparpiller sur ça. Donc je sais que je suis focus à 100% avec mes coéquipiers pour qu'on réalise quelque chose de très beau pour cette fin de saison, surtout que c'est la priorité à cet instant de la saison. Après, oui, voilà, c'est dans un coin de la tête. C'est sûr que quand t'étais compétiteur, quand t'étais un joueur qui a de l'ambition, t'as envie d'aller voir ailleurs. C'est des discussions que j'aurai peut-être après la fin de saison ou quoi, mais c'est sûr que là, pour l'instant, la priorité c'est la fin de saison. Mais c'est sûr que c'est dans un coin de la tête.
D'aller prendre un peu de temps de jeu, avec pourquoi pas un prêt pour revenir plus fort.
Pourquoi pas. C'est des solutions à envisager, mais c'est sûr que pour l'instant la priorité c'est la fin de saison, parce que on n'a pas envie de brouiller un peu le vestiaire ou le collectif avec chacun ses problèmes individuels. C'est pour ça que ce soit moi ou un autre, c'est famille, équipe, collectif, tous sur le même objectif, et après chacun
focus.
Voilà, c'est ça.
Mais ça arrive de façon régulière que les joueurs, les gardiens, en tout cas, joueurs gardiens qui jouent moins dans leur équipe auquel ils appartiennent, soient prêtés en Ligue 2 en National. Ça arrive, je crois que le gardien B de Strasbourg, le deuxième gardien Romain Risser, est prêté à Dijon. Enfin, ça arrive souvent que les gardiens soient prêtés. Et c'était le cas aussi de Jesse Moulin, Saint-Etienne, qui avait commencé sa carrière en étant numéro 3 comme toi. Il avait fait un prêt ensuite en début de carrière. Est-ce que c'est un rôle, une perspective qui t'intéresserait d'être un peu comme Jesse Moulin à Saint-Etienne?
Mais je pense que je pense pas que ça se décide maintenant. Je pense que ça se voit au fur et à mesure. Ça va dépendre. Ça veut dire que si, par exemple, dans un avenir, j'ai la possibilité d'aller jouer, que ça se passe bien ou pas, je pense que ça se ressent tout seul. Le feeling de savoir si t'es prêt à pouvoir faire une saison en tant que numéro 1 ou en tant que numéro 2, je pense que c'est prêt. Mais c'est sûr que, de par, entre guillemets, la famille OGC Nice, tout ça, c'est sûr que c'est pas négligé. Après, de faire une carrière à la JC Moulin, Je pense pas, parce que je suis quand même Teddy Boulenji, mais qui peut s'en rapprocher, pourquoi pas. Après, je suis quand même quelqu'un d'ambitieux, donc on verra. Je pense que ça se fait au jour le jour. Là, pour l'instant, c'est la fin de saison. L'année prochaine, ce sera sûrement autre chose, on verra. Et les prochaines années, ce sera au fur et à mesure, je pense.
Il peut y avoir une réflexion par rapport à la sélection algérienne aussi. Tu Exactement. As été appelé avec Léa, il me Bien semble. Sûr. Tu as joué avec les équipes de jeunes. Tu te dis, il y a peut-être un coup à faire aussi, si le micro te permet de répondre. C'est pas un bisutage. partage un peu pour ta première, mais d'avoir cette réflexion par rapport à la sélection aussi. Voilà, qu'est-ce qu'elle représente justement cette sélection algérienne aussi pour toi?
Par contre, c'est sûr que la sélection algérienne, elle représente énormément pour moi parce que c'est entre guillemets une fierté, non pas que individuelle, mais aussi de la famille. Donc j'y attache beaucoup d'importance. J'y ai été appelé en 2021 avec l'équipe 1. Donc aussi, je pense que c'est une forme d'intérêt de leur part. J'ai aussi fait les équipes jeunes, les U20, les U23, tout ça avec eux. Donc ça s'est toujours très bien passé et c'est dans un coin de ma tête. Et je sais que si un jour ou l'autre je dois être appelé là-bas, il va falloir un petit peu, entre guillemets, soit le temps de jeu ou soit un meilleur statut. Mais pour l'instant, ça a énormément d'importance. J'y pense énormément, mais ça me fait pas dévier de mes objectifs en soi, parce que je sais que si je continue à travailler, si je continue à être la personne que je suis, tout va bien se passer pour moi dans le futur.
Bon, en tout cas, tu as eu un peu de temps de jeu avec l'équipe réserve ces dernières semaines, groupes élites entraînés par Didier Digard. Ça te permet justement de faire ce lien, d'aller repérer peut-être les futurs aussi du gym. Il y a de sacrés bons joueurs dans ce groupe élite.
De très bons joueurs, et pour le dernier match que j'ai fait, c'était contre un très bon club, et ça s'est très bien passé, on a gagné d'ailleurs. Et je sais que j'y ai vu de très très bons jeunes joueurs. Je pense que la formation c'est prometteur, et aussi je sais que j'ai apporté aussi pas mal d'expérience, et je pense que c'était une des seules fois où, entre guillemets, il y a eu la victoire au bout. Donc je sais que j'ai apporté pas mal, et en plus ils sont très très bien encadrés. Ils ont Didier Digard, qui est un coach extraordinaire et qui leur apprend beaucoup au quotidien. Ils ont de la chance de l'avoir, et il y a de très très bons jeunes dans ces équipes là.
Il y a un nom qui revient,
c'est un plaisir de les voir,
un petit peu, c'est Victor Oracpo, qui est arrivé cet hiver, qui avait été repéré par le Bayern, que le gym a réussi à attirer en lui faisant signer son premier contrat pro. Tu as donc joué avec lui. Il est impressionnant, il sort un peu du lot,
Victor Oracpo. De par ce qu'il fait dans les matchs et de par les stats qu'il a, il sort du lot, ça c'est une évidence. Franchement, c'est un très très bon profil. Je pense qu'ils ont fait une bonne petite trouvaille, et que je pense que lui comme le club doivent continuer à bosser main dans la main, et surtout qu'il continue à travailler, lui qui néglige pas tout ce qui est côté formation, parce que c'est très important, et je pense qu'on n'a pas de doute à ce que bientôt il sera dans l'équipe première s'il continue comme ça. Mais il faut continuer comme ça.
Important, Patrice, d'avoir des jeunes qui émergent de ce centre de formation. C'est pas toi qui va me dire le contraire, mais c'est aussi un équilibre pas facile à trouver pour être performant tout de suite, tout en donnant aussi la chance à des jeunes comme Teddy, comme peut-être Victor Oracpo dans le futur.
Oui, mais après c'est des évidences. T'as des joueurs qui évidemment vont éclore au plus haut niveau, et on m'en parle aussi de ce joueur, Oracpo. On m'a dit que c'est un tout bon attaquant, et c'est vrai qu'il a des stats, et c'est vrai que la formation à l'OGC Nice est très importante, parce que on a un centre de formation qui est magnifique, on a des installations au top, on a des personnes qui encadrent ce centre de formation qui sont au top niveau aussi, et il va falloir que on arrive à pousser ces joueurs là pour les faire éclore au plus haut niveau, et parce que c'est à mon avis c'est juste l'essence du club, de prendre des joueurs, de les former, de les monter jusqu'au monde de professionnels, et derrière pourquoi pas les vendre à d'autres grosses armadas.
Et de transmettre peut-être aussi ses valeurs, depuis que tu es là, 2016, on a forcément ressenti ce côté un petit peu particulier. Il y a des valeurs particulières ici, ça fait partie des choses aussi que tu transmets, que tu veux transmettre à ces jeunes du centre de formation qui arrivent peut-être d'horizons aussi différents.
Bien sûr, c'est déjà, oui, c'est sûr qu'on sent qu'il y a une bonne énergie, entre guillemets, dans cette ville, dans ce club, et surtout qu'il faut que, bien sûr, il faut savoir l'inculquer aussi aux jeunes, savoir que même si ils viennent de différents horizons, on est de l'OGC Nice, on travaille à l'OGC Nice, et que c'est un très grand club, et qu'il faut savoir respecter tout ça, et surtout aussi dans le monde professionnel aussi, je pense que c'est important qu'il y ait des joueurs, entre guillemets, qui sortent du centre de formation, parce que ça montre aussi que le club vit bien, que le centre de formation vit bien, et surtout que la formation niçoise elle est pas négligée, et aussi ça montre aussi aux étrangers qui arrivent ici qu'il y a quand même une identité du club, et que quand on arrive ici faut savoir se battre pour les cuissons, tout ça. Donc dans tous les cas, on sent l'énergie au sein du club et de la ville, et je pense qu'elle est transmise comme aux jeunes comme aux professionnels, et tant mieux.
Et ça continue. Défendre ses valeurs, ça veut dire de parfois descendre dans l'arène aussi et aller défendre cet écusson. Ta saison, elle a été aussi marquée par cette suspension après le match contre Montpellier. On ne sait pas trop ce qui s'est passé dans ces couloirs avec les Payadins, mais derrière, il y a eu suspension de deux matchs. Voilà, t'as pas hésité aussi, toi, à aller te frotter un peu pour défendre les couleurs. Qu'est-ce qui s'est passé
une petite embrouille qui est pas folle, mais c'est parce que ça, on s'en était pris un peu aux supporters et je connaissais pas le contexte. Et quand on s'en prend aux supporters, c'est sûr que ça m'a un peu chagriné. Mais après, voilà, c'était une mauvaise réaction de ma part, je pense, sur le coup. Mais c'est sûr que je me devais de l'avoir parce que je l'ai prise. Enfin, on s'en prendre avec un de nos supporters, on touche pas à mes coéquipiers non plus. Donc voilà, après c'est sûr qu'avec du recul, quand on sent qu'on est suspendu aux yeux de la ligue, on n'a pas envie de montrer ce visage là surtout moi, j'ai pas envie de montrer ce visage là mais voilà, j'ai réagi pas sur le coup de l'impulsivité, mais voilà, un petit peu, mais ça a été vite à oublier, personne ne m'en a voulu, et voilà.
C'est pas Patrice qui va lui jeter la pierre, défendre les couleurs?
Ah non, moi je suis un fervent supporter et un fervent défenseur de cet écusson, de ce maillot.
Quitte à aller au charbon.
Oui, il faut y aller. Moi,
on a pris des rouges, Patrice?
Non, pas en pro, oui, en réserve, oui, mais
sacré
pas
Patrice.
En pro. J'aimais pas trop certains comportements que j'aimais pas trop.
Faut pas non plus faire n'importe quoi, mais il faut savoir aussi se faire respecter, ouais, surtout quand on est à domicile, tout ça. Mais sinon, après, voilà,
après l'erreur est humaine, tout le monde ne peut pas faire, tout le monde peut faire des erreurs, il n'y a pas de problème. Hein.
Gardien de courage, Teddy Boulendi, le gardien de l'OGC Nice. Dernière partie de son interview dans quelques instants sur France Bleu Azur. On va évoquer son parcours, le gardien qui l'a marqué, sa vie à Nice. C'est dans quelques instants sur 100% Aiglon.
100% Aiglon. 100% Aiglon sur France Bleu Azur.
Dernière partie de 100% Aiglon sur France Bleu Azur, toujours avec Patrice Albaganti, notre consultant, Maxime Bach, notre journaliste, et Teddy Boulendi, le gardien de l'OGC Nice. Avec Teddy, donc, on évoquait il y a quelques instants sa saison, son envie de rester. Et Teddy, on va peut-être faire un petit retour en arrière sur ton parcours. Tu arrives à l'OGC Nice en 2016, si je ne me trompe pas.
À mes 15 ans, oui.
Comment se passent ces premières approches avec le gym? Comment ça se passe ces premières années?
Alors déjà, j'étais détecté à mes 14 ans. Dans mon club proche de là où je viens, et je suis arrivé du coup en 2016 à mes 15 ans à l'OGC Nice au centre de formation, et ça s'est très bien passé directement au club avec de très bons coachs, avec de très bons coéquipiers. Après, la vie elle est un peu différente parce que c'était un peu loin de la famille, à l'internat, tout ça, mais tout s'est très bien passé. J'ai toujours été très bien entouré et franchement j'en retiens que de très très bons souvenirs.
Comment ça se passe? Tu es né à Martigues, formé au pôle espoir de Aix, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et donc quand tu arrives à Nice, est-ce que la famille te suit ou comment ça, tu te retrouves tout seul à Nice? Comment ça se passe?
Non, je me retrouve tout seul à Nice. Il reste du coup à côté de Martigues, il reste dans notre ville natale. Et du coup, c'est un peu la relation avec les parents, avec la maman, qui était un peu difficile, un peu loin de tout ça. Mais après, je savais que j'étais déjà ambitieux, j'étais déjà focus sur le fait de vouloir être joueur de football, et je savais qu'il fallait passer par ça. Mais ça s'est très très bien passé d'entrée directement parce que j'ai été très bien entouré avec de très bons coachs, de très bons responsables de l'internat, et je me suis très bien senti, je me suis senti comme avec une deuxième famille, donc franchement top.
Et tu partageais ce point commun, pardon Maxime, avec Yohann Cardinal aussi, qui était de la région de l'ouest de la région PACA, et qui lui aussi est arrivé à Nice assez tôt, en plus qui était à l'époque en pro, c'était la saison où on termine 3e du championnat. Est-ce qu'il y avait des points commun? Est-ce que vous parliez peut-être un peu trop d'écart d'âge entre Yohann et toi? Vous parliez justement.
Je l'ai côtoyé, mais ma première année en professionnel, il était le deuxième garagien. Même la saison en Europa League, j'étais troisième, et il y avait Walter et Yohann. Et franchement, top. Je pense la personne qui m'a entre guillemets intronisé dans le vestiaire, parce que c'était aussi une personne qui venait de la même région, aussi parce que c'était un gardien de but et que j'étais un gardien de but. Donc je pense qu'il se voyait comme moi je me voyais dans lui, et franchement non, top. Il a été très très bienveillant avec moi, très bon avec moi, et c'est une personne au top. Et je pense que s'il a eu ces saisons de magnifique avec le Sunis, c'est que c'était mérité, et franchement c'est un top gardien, une top personne, et très content de l'avoir côtoyé.
Ça doit un peu t'évoquer des souvenirs, ça, Patrice, les premières années, parce que toi aussi, tu venais de l'ouest.
De Marseille, ouais.
Voilà, de Marseille, l'éloignement. C'est vrai qu'on parle beaucoup des footballeurs, mais il y a beaucoup de sacrifices aussi quand on est, ouais, quand on est jeune et qu'il faut partir comme ça loin de sa famille.
Moi, j'étais un peu plus vieux, j'avais 17 ans. Mais oui, oui, tu es un déracinement, hein, clairement. Ma mère, elle a fait une dépression. Hein. Mais voilà, ça n'a pas été, ça a pas duré très longtemps. Mais après, moi, je l'avais très, très bien vécu. J'avais, comme le disait Teddy, j'ai rencontré de suite une famille, une deuxième famille, avec tous mes coéquipiers du centre de formation. Et tu sais, même avec le recul, j'ai 51 ans maintenant, et ces années de centre de formation, je m'en rappelle, mais de fou, quoi. C'est-à-dire, ça a marqué ma vie. Et ces mecs-là, qui étaient avec moi, c'est des amis, c'est des vrais amis, tu vois. Et on se voit souvent, on se voit tout le temps, et c'est pas comme le monde professionnel, tu vois. C'est encore une étape différente. Donc, franchement, le centre de formation, moi, déjà, à l'époque, c'était le top, ce qu'il a vécu, Teddy aussi. Et c'est vrai que il t'accueille vraiment, quoi. L'OGC Nice, moi, j'ai trouvé ça particulier. Il t'accueille vraiment. T'es de la famille.
C'est ça, c'est que c'est un grand club avec une très grande dimension, mais surtout qu'il a toujours gardé ce côté famille là, donc qui est très important. Et comme tu disais, moi, pareil, je suis toujours en contact avec de nombreuses personnes de la formation, et avec Evan Guessant, où on vient aussi plus ou moins de la même région, on est rentré ensemble au centre de formation, tout ça. On est en se côtoie maintenant depuis 8 ans, donc je le considère limite, je le vois plus que mon propre frère à moi. Donc donc non, franchement, top. C'est ça, c'est qu'on a été très bien entouré, et que surtout les joueurs aussi, pareil, ils sentent qu'il y a une deuxième famille, et c'est très très important. Même si c'est un grand club, faut pas oublier, faut pas que le Nice perde ce côté familial là.
Et tu te sens niçois aujourd'hui?
Bien sûr.
Quand tu voyages à travers le monde, tu dis je suis niçois.
Bien sûr. Ouais. Bien sûr.
Je suis totalement identifié à ses valeurs.
Bien sûr. À la ville, et surtout à la mentalité de la ville et du centre de formation et des personnes qui travaillent au club, que ce soit côté formation ou professionnel. Donc très fier de représenter le Nice et de le créer sous tous les toits s'il faut.
Il y aurait du coup un petit pincement au cœur si tu devais partir sans avoir pu porter ce maillot en match officiel?
Bien sûr, bien sûr. Il y aurait un grand pincement au cœur si je porte pas ce maillot-là. Mais on met tout en œuvre pour pouvoir avoir cet objectif-là un jour ou l'autre. Mais donc pas pressé et tout se passe bien.
À 3-0 contre Lille, on fait entrer Teddy Boulogne.
Ce serait magnifique.
Bah oui.
Ce serait magnifique. Mais s'il y a peut-être, voilà, un personnage, un gardien ou un joueur qui t'a marqué sur ces 8 années à l'OGC Nice, peut-être le gardien le plus fort que tu as côtoyé ou qui t'a marqué?
Je pense que je mettrais Walter et Marcin. Ouais. Parce que ça a été... Même si Casper aussi il m'a apporté beaucoup, mais je pense en termes de d'investissement quotidien, tout ça, je me suis beaucoup rapproché d'eux parce que je sais que ça m'a donné beaucoup, ça m'a permis de progresser aussi. Donc je pense Walter et Marcin en termes de gardien de but, et en termes de joueurs, il y en a beaucoup. Quand je suis arrivé, du coup, j'avais Dante qui c'était impressionnant à le voir, même toujours autant impressionnant à le voir à l'âge entre guillemets qu'il a, parce que je suis sûr qu'il l'a pas. Et des mecs comme Mario Limina, où on sentait la l'expérience qu'il avait, Jissette Ojibo, Kefren Thuram aussi, qui sont entre guillemets arrivés avec un statut un petit peu en dessous et qui ont réussi à avoir un très grand statut, voire être international français. Donc franchement, j'ai côtoyé de nombreux joueurs et de très grands joueurs et je pense que ça m'apporte beaucoup, ça m'apportera de parce que ça a souvent été de très grands joueurs, par exemple mais qui sont pas arrivés avec le statut qu'ils ont maintenant. Ils se sont bataillés pour l'avoir. Walter comme Marcin, ils sont arrivés avec un statut, ils ont bataillé pour l'avoir. JC, bon, même malgré qu'il soit arrivé de Barcelone, il avait quand même, entre guillemets, il a gagné beaucoup de choses avec l'OGC Nice. Kefren, même si ça a toujours été Kefren et qui a été toujours un grand joueur, il a grandi entre guillemets avec l'équipe. Donc voilà, je me suis beaucoup rapproché de ces personnes-là. Je pense que aussi de par aussi nos ambitions et la manière dont on fonctionne, qu'on est de grands travailleurs et je pense qu'on se sert tous les uns des autres et c'est top.
T'as un modèle aussi peut-être dans les gardiens aujourd'hui. Un modèle ou
un modèle et
un gardien favori
et un idole, c'est Manuel Neuer, je pense, qui a fait basculer surtout le poste qui a changé entre guillemets l'air du gardien de but, qui est maintenant entre
dans sa gestuelle qu'on comprenne, c'est qu'est-ce qui t'impressionne dans sa manière.
Autant la gestuelle, je pense qu'il y a des gardiens qui s'en sont rapprochés. Je pense que Marc-André Ter Stegen aussi, je pense que qui est un gardien extraordinaire pareil. Je pense que il est plus ou moins entre guillemets gardien allemand, la même gestuelle, tout ça. Mais c'est surtout dans comment il a pu changer le poste aux yeux des gens. De l'importance que le poste il a maintenant aux yeux des gens, et c'est ça, c'est la personnalité qui dégage, surtout les stats qu'il a eu, et je pense que c'est ça qui fait de lui le plus grand gardien de l'histoire.
Et Raïs Mboli, alors l'ancien gardien de la sélection algérienne, bien tu sûr, regardais un petit peu aussi
surtout bien sûr, surtout les coupes du monde qu'il a pu faire avec l'Algérie, c'est ça aussi surtout qui a montré entre guillemets la ferveur qu'il y avait autour de l'Algérie, et c'est ça qui aussi qui m'a plu, c'est que c'était un gardien qui peut-être en club n'avait pas une très grande carrière, mais quand il a joué pour la Coupe du Monde de l'Algérie, tout le monde était derrière lui et c'était limite l'idole de tout le monde. Et c'est ça qui plaît aussi, je pense, à un sportif, c'est d'avoir un peuple et une ferveur derrière lui. Donc ouais, franchement top.
Benjamin, il est fan du foot africain, il connaît sur le bout des doigts. Donc il a envie de voir Teddy Boulandi.
Il en faut.
Gardien de l'Algérie.
Et bah pourquoi pas.
J'espère, bien sûr.
Ah ouais.
On espère.
Bon, par contre, si Algérie Côte d'Ivoire, tu ne laisses pas, tu ne gagnes pas, s'il te plaît.
Petit fait pour les Ivoiriens.
Petit fait pour les Ivoiriens. Bon, ça, c'est un autre débat. Teddy, reste une minute. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite du championnat, pour la suite de ta carrière?
Alors, déjà, qu'on nous souhaite. Qu'on ait énormément de soutien, j'espère, des supporters pour vendredi. C'est surtout ça sur lequel je vais mettre le point. Et aussi que nous, je nous souhaite de finir la saison de la meilleure des manières.
C'est quoi la meilleure des manières?
La meilleure des manières, c'est de prendre match par match et de les gagner. Surtout vendredi, c'est celui qui est le plus important, je pense, pour la fin de saison, qui permet de, entre guillemets, sécuriser nos objectifs. Et surtout bien finir, je pense, et que le groupe continue comme ça, qu'on n'arrête pas, qu'on ne lâche pas, qu'on prend entraînement par entraînement, match par match. Et à moi, qu'on souhaite le meilleur pour la suite et de continuer à travailler. Et voilà.
Eh ben, on te le souhaite.
Merci beaucoup.
Et tu reviens l'an prochain quand tu auras fait tes premiers matchs en pro.
J'espère bien.
Mais oui.
Avec grand plaisir, en tout cas.
Première interview, en tout cas, magnifique.
Merci beaucoup.
Merci, messieurs, d'avoir été avec moi pendant cette heure. Un vrai régal. Bon, il ne reste plus beaucoup de temps. Merci, Patrice. Merci, Maxime. Et
merci à tous.
Merci, Teddy.
Vous pouvez le replay sur FranceBleu.fr/Azur.